Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre la fin de la visite de Ban Ki-moon en Irlande, le Conseil de sécurité qui examine la situation au Kosovo, mais aussi l'aide alimentaire du PAM au Mali et le recul de l'épidémie de choléra parmi les réfugiés burundais. Dans le dossier retour avec l'UNICEF sur les attaques suicides menées par les enfants au Nigeria, enfin ce sera l'heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire de Voix de Femmes. Fin de la visite du secrétaire général des Nations Unies en Irlande. Avant de se rendre à Bruxelles, Ban Ki-moon a rencontré des réfugiés réinstallés dans le pays du trèfle, mais aussi des journalistes après s'être entretenu avec le premier ministre irlandais Enda Kenny. Il a insisté sur la responsabilité de l'Union européenne vis-à-vis des migrants. Le secrétaire général qui s'est aussi également adressé aux jeunes délégués de l'ONU en Irlande, Christina Silvero.
À Dublin, le secrétaire général de l'ONU a rencontré lundi des réfugiés d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient réinstallés dans ce pays. Ban Ki-moon a salué les efforts des autorités pour accueillir ces personnes forcées de fuir. Il a rappelé les récentes tragédies de migrants en mer Méditerranée et en Asie du Sud-Est, soulignant qu'il s'agissait d'un problème mondial. Lors de sa visite en Irlande, qui a débuté dimanche, le secrétaire général a rencontré des responsables gouvernementaux, dont le président et le premier ministre. Au cours d'une conférence de presse conjointe, ce lundi, avec le Premier ministre Enda Kenny, Ban Ki-moon a salué les Irlandais pour le résultat du référendum autorisant le mariage homosexuel. Ban Ki-moon s'est par ailleurs adressé ce mardi aux jeunes délégués de l'ONU en Irlande. Le secrétaire général a souligné que l'actuelle génération de jeunes est la plus importante que le monde ait connue et qu'elle est la première génération à pouvoir éliminer la pauvreté, mais aussi la dernière pour éviter les pires impacts du changement climatique.
La situation au Kosovo a mobilisé ce matin l'attention du Conseil de sécurité. Le représentant spécial du secrétaire général Farid Zarif a souligné que Belgrade et Pristina sont tous deux à une étape importante dans leur parcours respectif vers l'intégration européenne. Il a souligné l'importance fondamentale que revêt leur capacité à œuvrer ensemble pour surmonter un héritage conflictuel. Le point avec Isabelle Dupuis.
Devant les 15, le chef de la mission d'administration intérimaire au Kosovo s'est félicité de l'augmentation des contacts directs au niveau local. Il a toutefois souligné que le dialogue direct entre Belgrade et Pristina doit devenir la norme et non pas une exception. Farid Zarif a déploré qu'un des éléments clés de l'accord sur l'établissement d'une association de municipalités à majorité serbe reste en suspens. Il a aussi insisté sur la nécessité de résoudre les cas des plus de 1650 personnes toujours portées disparues depuis la fin du conflit. Le chef de la MINUC s'est par ailleurs inquiété des incidents qui ont pris pour cible ce week-end dans la partie occidentale du Kosovo des réfugiés qui retournaient chez eux. Il a dénoncé la persistance d'incidents de ce type, avertissant que ceci sape les efforts de réconciliation et d'intégration. Farid Zarif a aussi réclamé une enquête transparente sur les affrontements armés meurtriers survenus à Kumanovo dans l'ex-république yougoslave de Macédoine les 9 et 10 mai derniers et auxquels ont participé plusieurs personnes originaires du Kosovo.
La situation se détériore dans le nord du Mali, provoquant d'importants mouvements de population. Selon le Programme alimentaire mondial, 31 000 personnes ont fui leur maison ces deux dernières semaines dans la région de Tombouctou. Et les violences ont aussi poussé 600 personnes à se réfugier dans les pays voisins. La majorité est dans le dénuement le plus total. Pour les aider, le PAM a distribué des rations d'urgence à 29 000 déplacés. Elisabeth Birs, porte-parole du PAM.
Ces combats au nord du Mali sont en train vraiment d'avoir un impact très négatif sur l'espace humanitaire qui est déjà très limité. Cela gêne la distribution d'une aide vitale pour ces populations et ça s'ajoute à une situation déjà difficile de plus de 3 millions de personnes qui ne savent pas de quoi leur prochain repas sera fait. La saison de soudure va commencer, c'est là où les provisions des ménages sont les plus basses et si on ajoute cette insécurité, si on ajoute le fait que nos distributions sont souvent interrompues, eh bien on va arriver à une situation dramatique pour les populations.
Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, annonce que le nombre de nouveaux cas de choléra parmi les réfugiés burundais en Tanzanie a fortement baissé et qu'il n'y a pas eu de nouveaux décès depuis la semaine dernière. Un manque d'eau potable que connaissent aussi les Burundais réfugiés à Luzenda, en RDC, d'où la présence depuis lundi d'une délégation du HCR pour évaluer les conditions humanitaires.
Ces ingénieurs hydrauliciens devront trouver une solution rapide à ce problème d'eau au camp des réfugiés de Luzenda. Selon la CNR, on devra tirer de l'eau à partir des rivières qui entourent les camps, la traiter avant de desservir la population réfugiée. Au cours d'une rencontre interagence organisée la semaine dernière, des humanitaires ont indiqué que l'ONG internationale Tia Fund avait récemment exécuté un projet d'adduction d'eau avec une capacité de 16 000 personnes réparties dans 3 villages de la région de Lucenda. L'on craint que la capacité de ces projets en eau potable ne soit très limitée si on y ajoute 9 000 réfugiés. Oxfam Grande-Bretagne et Tia Fund, qui interviennent dans le secteur de l'eau, auraient besoin d'aide supplémentaire pour répondre à ces besoins. Selon les humanitaires, la MONUSCO pourrait aussi être sollicitée pour ravitailler de l'eau dans les sites. 9416 individus ont été pré-enregistrés jusque ce week-end, soit 3236 ménages. Douvira Fiston, Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Enfin au Népal, un mois après le séisme dévastateur du 25 avril qui a fait plus de 8600 morts et détruit près de 500 000 habitations, les humanitaires ont établi 5 centres logistiques et 3 bases avancées pour acheminer l'aide aux régions qui en ont le plus besoin. L'approche de la mousson reste fortement préoccupante, comme l'explique Jamie McGoldrick, coordinateur humanitaire de l'ONU dans le pays.
Notre principale préoccupation en ce moment, c'est la mousson, qui arrive dans 4 semaines et va affecter les populations qui, après être passées par une série de tremblements de terre majeurs, se retrouvent dans l'incertitude, sans savoir ce que leur réserve l'avenir. La seconde, c'est que nous, la communauté internationale, sommes dans une course contre la montre avec la mousson pour essayer d'acheminer autant de matériaux que possible avant que cela ne devienne trop difficile sur le plan logistique en raison des glissements de terrain, de la mousson et que nous soyons incapables de voler dans ces zones. Enfin, l'autre défi, c'est d'assurer que les canaux que nous avons établis pour les matériaux de base, les ressources et les services clés qui atteignent actuellement les populations demeurent à leur disposition d'ici la saison de la mousson et au-delà, le temps que la reconstruction ait lieu. Et nous espérons voir la reconstruction démarrer bientôt, même si les choses risquent de ne pas aller très vite.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur le Nigeria où l'UNICEF est préoccupé par l'utilisation croissante d'enfants dans les attaques suicides par le groupe Boko Haram. Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, plus de femmes et d'enfants dans le nord du pays ont été utilisés comme kamikazes au cours des 5 premiers mois de cette année que pendant toute la durée de l'année dernière. D'après le nouveau rapport du Fonds publié ce mardi, 27 attaques suicides ont été enregistrées depuis début janvier contre 26 au total en 2014. Les explications de Laurent Dutordoir, il est chargé de la protection au bureau de l'UNICEF au Nigeria. Il est au micro d'Alpha Diallo.
Ce n'est pas nouveau, mais on remarque quand même une hausse d'incidents. Il faut dire qu'au début 2015, il y avait des attaques par Boko Haram pour prendre des territoires. Maintenant, en fait, il y a un shift dans leur tactique. Et à nouveau, c'est plutôt des attaques opportunistes. Et dans ce cadre, nous avons observé un plus grand nombre d'attaques suicidaires, y inclus par les femmes et les enfants. C'est important à dire que les attaques ont lieu dans des espaces publics et que c'est plus facile en fait pour les femmes et pour les enfants pour y entrer sans être fouillés. Et ça, c'est quelque chose que le groupe armé utilise.
Et quelle est la moyenne d'âge de ces fillettes auteurs de ces attaques suicides? Est-ce que vous avez une idée globale sur leur profil?
Nous avons documenté 9 cas d'enfants qui ont été impliqués dans des attaques suicides. C'était tous des filles entre l'âge de 7 ans et 17 ans. Sur le profil, bien sûr, c'est difficile de déterminer le profil, mais il y a eu des incidents où les attaques suicides n'ont pas eu lieu. Et ça nous donne un peu l'opportunité de mieux comprendre la situation. Et ce n'est pas que des enfants qui ont été enlevés, mais aussi des enfants qui ont été déplacés, parfois séparés de leur famille, en fait qui n'ont personne et qui sont très vulnérables à l'exploitation pour des activités criminelles ou activités du groupe armé.
Le représentant de l'UNICEF au Nigeria note que ces enfants ne font pas intentionnellement ces attaques, mais instrumentalisés par les adultes.
Pour nous, c'est très clair que ces enfants sont des victimes. C'est pas qu'eux-mêmes commettent un crime. Ils sont dans une situation très vulnérable et ils sont utilisés par des adultes pour commettre des actes les plus horribles.
Est-ce que vous redoutez désormais que ces enfants, ces filles, soient perçus comme des menaces aux yeux des communautés? Et quelles sont les conséquences pour ces enfants?
Il y a une forte probabilité. En fait, les enfants sont déjà en danger, en risque. Mais le fait qu'ils ont été utilisés comme des instruments rend une certaine angoisse angoisse dans la société et les gens ont peur. Surtout dans les espaces publics, il y avait déjà des rapports où les gens pensent qu'il y aura une attaque suicidaire, mais ce n'était pas le cas. Ça veut dire qu'il y a une angoisse générale dans la population.
Quel est le lourd tribut payé par ces enfants affectés par ces violences de façon générale au nord du Nigeria?
Nous estimons que pour le moment, il y a 743 000 enfants qui ont été déplacés à cause du conflit à l'intérieur du pays. Le nombre total, c'est 1 300 000 personnes. Ça veut dire que la moitié des déplacés sont des enfants. De plus, en fait, il y a aussi des rapports de recrutement et d'utilisation par les groupes armés d'enfants. On n'a pas de nombre précis, mais il y a de plus en plus de preuves que c'est assez fréquent.
Ces derniers jours, il y a eu des annonces des autorités militaires nigériennes par rapport à la libération des filles qui étaient détenues par Boko Haram. Avez-vous pu les rendre visite et dans quel état sont ces filles?
Eh bien, les femmes et les enfants qui ont été repérés dans la zone de combat étaient transférés de Borno à Adamawa, où ils étaient dans un camp de déplacés et les acteurs humanitaires avaient accès à ce camp, mais les autorités avaient décidé de les transférer à un autre lieu qui était plus sécurisé. Pour le moment, UNICEF n'est pas impliqué dans ce transfert ou ne peut pas fournir des services, mais on est en train d'avoir un dialogue avec le gouvernement pour avoir accès.
Voix de femme.
Cette semaine, l'hygiène féminine. Le 28 mai est la journée choisie par de nombreuses ONG pour attirer l'attention sur l'hygiène menstruelle en particulier. Archana Patkar dirige le programme de réseau et gestion des connaissances pour le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, une agence qui travaille au sein des Nations Unies. Des propos recueillis par Tsige Chiferao.
L'hygiène menstruelle est un point d'entrée très important. En fait, pour pouvoir parler et travailler sur toute une gamme de choses qui affectent des femmes et aussi des hommes, mais en fait surtout en matière de problématiques autour desquelles il y a un silence, y compris dans l'Afrique et dans l'Asie, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, surtout dans les pays en voie de développement. Mais on voit de plus en plus qu'en fait ce silence s'opère aussi dans les pays développés.
De quel silence parlez-vous? Est-ce que c'est parce qu'il y a des stigmates, des stéréotypes?
C'est vraiment bizarre, mais quelque chose par laquelle toutes les femmes, la moitié de l'humanité est bien affectée chaque mois. Et si je me rappelle, les femmes en principe ont des menstrues pendant 3500 jours dans leur vie. Et puis, les incidences de menstruation, 460 fois dans leur vie. C'est vraiment bizarre qu'il y ait tout un silence là-dessus. Quel est le problème? En fait, à cause de ça et les stigmas autour, il n'y a pas d'information, il y a un manque d'information. Un manque en fait d'infrastructures adaptées à ses besoins. Et il y a aussi tout un manque de personnel et de services qui travaillent pour aider les femmes et les filles à gérer leurs menstrues d'une façon saine et digne.
Donc selon vous, il y a un manque d'éducation dans ce domaine en particulier?
Même avant le manque d'éducation, pourquoi on n'en parle pas? Même dans les familles où les femmes et les filles ne vont pas à l'école et les hommes et les garçons travaillent dur parce que c'est une famille pauvre, pourquoi on n'en parle pas?
Et pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou selon vous?
Il y a beaucoup de raisons. Nous avons mené pas mal de recherches dans l'Afrique et en Asie. C'est quelque chose de très historique. On a fait ressortir par les recherches le fait que tout ce sujet de sang, en fait, y compris le sang menstruel, mais aussi les femmes, après avoir eu un enfant, le sang qu'on appelle en anglais « postpartum blood », je ne connais pas exactement le terme en français, en fait, on a de la honte là-dessus. On n'est pas fier. Il faut vraiment le cacher. Il ne faut pas que quelqu'un me voie quand j'ai des menstrues. Et quand j'ai des menstrues dans beaucoup de cultures, si je touche au yaourt ou bien si je prépare la cuisine, toute la famille va tomber malade. Et ou bien dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est encore pire, où le sang des menstrues, on peut les utiliser en fait pour les mauvaises intentions. On peut tomber malade si quelqu'un voit son sang. pendant cette période. Donc vraiment, il y a tout un cache-cache là-dessus. Et les femmes ont peur parce qu'elles ont été éduquées de cette façon. Et même si elles mettent en question ces stéréotypes et ces superstitions, elles ont toujours peur quand il s'agit de leurs filles. C'est passé de génération en génération.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, un journal à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.